Ah, bonsoir à tous. Si vous voulez bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 40. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle à l'instant, et elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Et ce soir, on va un peu méditer sur ce passage. Alors le contexte, on le lit au verset 40. Il nous est dit que à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. En fait, Jésus, il était passé de l'autre côté du lac. Il avait délivré un possédé, le possédé de Gadara, et il était revenu d'où il était parti. Et il nous est dit qu'une foule attendait Jésus. Alors ce soir, je ne sais pas si on peut dire qu'on est une foule, je ne pense pas. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut faire comme eux, c'est nous attendre à Jésus-Christ. Et ce soir, qui que nous soyons, nous avons cet accès à Jésus-Christ comme cette foule a eu accès. Et nous voyons dans ce texte, particulièrement dans cette foule, qu'il y a eu deux personnes qui ont eu un contact particulier avec Jésus. On voit qu'il y a cette femme qui a la perte de sang, et on voit aussi qu'il y a cet homme qui était en train de perdre sa fille. Et on voit au final un homme qui est plutôt honoré, un religieux, et puis on voit une femme au final qui était rejetée, parce qu'elle était malade, et dans le contexte de l'époque, cette femme devait se tenir à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous ce soir, quelle que soit la situation dans laquelle on est, qu'on soit quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux, ou qu'on soit quelqu'un plutôt de méprisé, généralement par les hommes, ou rejeté, nous pouvons avoir accès à Jésus-Christ. Parce que toute cette foule a eu accès à Jésus-Christ. Il nous est dit un peu plus loin que la foule pressait Jésus-Christ. Donc tous avaient un contact avec lui. Ce soir, le Seigneur Jésus, il est présent par sa parole, il est présent par son esprit, et chacun d'entre nous, qui que nous soyons dans cette salle et qui que ce soit qui écoute ce message, a un accès à Jésus-Christ. Mais on va regarder particulièrement ce qui s'est passé pour ces deux personnes. Alors la première personne qu'on va regarder, c'est pas Jaïrus, mais c'est cette femme qui avait la perte de sang. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit au verset 43 que cette femme donc avait une perte de sang depuis 12 ans. On voit une femme qui était malade et qui perdait son sang. Ça porte un nom, ça s'appelle la ménorragie. Oui, j'ai fait des recherches. Cette femme, elle perdait son sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette femme, petit à petit, elle périssait. Elle perdait sa vie. Parce que vous savez, quand il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Et on voit que pendant 12 ans, elle a perdu son sang. Dans Marc, au chapitre 5, verset 26, c'est la même histoire, mais il nous est détaillé qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ça veut dire que cette femme, pendant 12 ans, elle était allée en empirant. Ça veut dire que sa vie, ce qu'elle était avant sa maladie, puisque cette femme, c'était une femme âgée, donc elle a eu sa maladie au cours de sa vie, petit à petit, sa vie ne cessait de diminuer et la situation, elle est allée en empirant. Et cette femme, au final, elle était en train de perdre son sang, mais plus que ça, elle était en train de perdre sa vie, de perdre ses forces, de perdre son argent, puisqu'elle avait tout dépensé auprès des médecins, et même au final de perdre ses relations sociales. Parce que dans le contexte de l'époque, une personne qui avait ce type de maladie, on peut le lire dans le Lévitique, chapitre 15, verset 19, il nous est dit que ces personnes étaient considérées comme impures, c'est-à-dire qu'elles étaient considérées comme sales, et qu'il fallait pas que les maladies qu'elles avaient puissent être transmises aux autres, donc elles devaient se tenir à l'écart. Donc cette personne, à cause de cette maladie, on peut en déduire qu'elle s'était aussi isolée et qu'elle ne pouvait pas avoir des relations sociales. Elle perdait sa vie, elle perdait son sang. Et vous savez, on peut faire un parallèle facile entre ce qui se passait dans le corps de cette femme et ce qui peut se passer dans le cœur d'un homme qui est atteint par le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand on perd la vie. Et vous savez, quand le péché, il atteint le cœur d'un homme, eh bien, il se passe à peu près la même chose que quand le corps de cette femme. On perd nos forces. On perd notre moralité. On perd nos principes. On se disait, mais jamais je ferai ça. Et c'est ce qu'on fait. Jamais je ferai ce que cette personne fait. Et pourtant, on se retrouve à la même place. Quand on a le péché dans le cœur, on a des angoisses qui augmentent. Tout va bien. Et pourtant, on n'a pas la paix. On a les angoisses. Quand il y a péché dans le cœur, il y a la culpabilité. On fait pas le bien qu'on voudrait. On fait le mal qu'on ne voudrait pas. Et puis on blesse les gens. Donc il y a de la culpabilité. Quand il y a le péché dans le cœur, la joie, elle diminue. Comme le sang qui fuit, la joie, petit à petit, elle s'en va. Pourtant, il y a tout pour être heureux. Dans notre société, il y a absolument tout pour être heureux. La plupart des gens peuvent avoir la santé, la voiture, le logement, les besoins primaires. Et pourtant, la joie diminue, la paix diminue, etc. C'est quoi qui produit ça ? C'est le péché. C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce dépérissement du cœur. Et vous savez, on est comme au final une branche d'arbre, quand on est coupé du tronc, qu'est-ce qui se passe ? Bah, au début, c'est tout vert, il y a peut-être encore du fruit, mais petit à petit, la branche, elle sèche. Et c'est pareil dans nos vies. Quand nos vies, elles sont séparées de Dieu, quand il y a le péché, qu'est-ce qui se passe ? Petit à petit, on dépérit, petit à petit, on perd notre vie, nos principes. Il suffit de regarder l'humanité. Quand on regarde le monde qui a rejeté Dieu, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que petit à petit, le monde, il se périt, la moralité, elle diminue, les angoisses, ils augmentent. Et tout ça, pourquoi ? Parce que tout simplement, ce monde s'est séparé de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle David, qui dans un psaume, on peut aller le lire, le psaume 38, va parler de ce qui s'est passé quand lui aussi, il était dans le péché. On peut le lire, c'est au psaume, dans le psaume 38. Et c'est David, inspiré par l'Esprit, qui va décrire la condition de celui qui pêche. Et vous allez voir qu'il y a des parallèles intéressants avec cette femme qui perdait sa vie, qui perdait son sang. On va lire à partir du verset 5. David dira, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart, etc. Et vous voyez l'effet du péché, cette plaie intérieure, ce mal-être intérieur et même les amis, les connaissances qui s'éloignent. Ça, si vous vous demandiez ce que c'était dans votre cœur, ben, la Bible lui donne un nom. Ça s'appelle le péché. Le péché. Alors si on revient à cette femme qui perdait son sang, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle va avoir un contact avec Jésus. Au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus guérit la maladie et la maladie physique. Et encore aujourd'hui, encore ce soir, encore maintenant, Jésus-Christ est celui qui guérit les maladies. Et vous pouvez avoir une maladie dans votre corps et le Seigneur Jésus est capable de la guérir. Parce qu'il nous est dit dans Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Le Seigneur y guérit encore aujourd'hui. Mais pour le péché, pour le problème du cœur, eh bien, c'est pareil. On a aussi besoin de venir à Jésus-Christ. Là, cette femme, il nous est dit qu'elle était allée voir tous les médecins, elle a cherché au travers des hommes des solutions. Et bon, pour ouvrir la parenthèse, il n'y a rien de mal à aller voir un médecin. Parce que si vous allez voir un médecin, il peut vous dire ce qui ne va pas. Mais quand on est guéri, c'est aussi lui qui est capable de vous dire que tout va bien. Il faut faire attention. Ce texte-là ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Ça veut juste dire que le Seigneur, au-delà de ce, quand la médecine est limitée, il peut agir. Et pour le cœur, c'est pareil. Vous pouvez chercher la solution à ce péché dans votre cœur auprès des hommes. Aller à droite, aller à gauche, aller dans différentes religions, chercher dans les personnes qui sont proches, chercher peut-être même dans un pasteur la solution. Non. La solution au problème du péché, la solution au fait que notre vie, elle est loin de Dieu, la seule solution pour être guéri, pour être sauvé du péché, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce que produit le péché, c'est la mort. Mais c'est quoi ce salaire exactement? Eh bien, la Bible dit que ce que produit le péché, on aurait pu le lire dans le verset 4 du psaume 38, c'est la colère de Dieu. Jésus est venu nous sauver de quoi? De la colère de Dieu. Parce que le péché, c'est pas une maladie. Le péché, c'est quelque chose que l'on choisit. Et quand on choisit de faire le mal, quand on choisit de vivre loin de Dieu, on l'irrite, on l'offense, et il y a sur notre vie la colère de Dieu. Eh oui. Mais il y a une solution, c'est la grâce de Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a pris ce salaire, cette colère sur lui à la croix. La colère de Dieu qui nous revenait est tombée sur Jésus-Christ. Comment être sauvé du péché en croyant que Jésus-Christ a pris la colère qui nous revenait à la croix? Et au final, c'est vrai que cette femme, elle perdait son sang, elle perdait sa vie. Mais Jésus-Christ aussi a perdu son sang à la croix. Cette femme perdait sa vie. Et pourquoi Jésus a agi et l'a guéri? C'est écrit que par ses meurtrissures, donc ça veut dire par son sang à lui qui a coulé, cette femme a été guérie. Et pour notre vie, la mort spirituelle, c'est-à-dire la colère de Dieu qui pèse sur notre vie, comment est-ce qu'on peut en être guéri, en être délivré? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette même mort spirituelle est tombée sur Jésus à la croix. Et que à la croix, ce n'est pas moi qui étais frappé par la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que le seul qui peut nous sauver du péché, qui peut nous sauver de la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que c'est le seul que Dieu a brisé sur la croix. Et au final, tout comme cette femme, elle a eu accès à la grâce de Dieu, nous aussi, ce soir, nous avons tous accès à la grâce de Dieu. Elle nous est offerte parce que Jésus est mort sur la croix. Mais on peut remarquer dans ce texte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont touché Jésus. Et pourtant, il nous est dit qu'il n'y avait que cette femme où Jésus s'est retourné et m'a dit « Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché ?» C'est rigolo. Et d'ailleurs, même les disciples, au verset 45, ils comprennent pas. Ils disent « Jésus dit qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Donc, on peut remarquer que cette femme, elle a touché Jésus comme les autres, mais elle l'a touché d'une manière différente. Et vous savez, on peut être au contact de Jésus. Là, on est au contact de sa parole, on est au contact de son esprit, parce que sa parole est inspirée, elle est esprit et vie. Mais il y a une manière particulière d'être en contact avec Jésus. C'est quoi cette manière? Eh bien, c'est Jésus qui va le dire au verset 48. Il dira à cette femme, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. » La différence qu'il y avait entre cette foule et cette femme, c'est que cette femme, elle a touché Jésus par la foi, alors que la foule, non. Et la différence qu'il y a pour recevoir la grâce, parce que toutes ces personnes de la foule ont pu avoir accès à la grâce, mais cette femme, elle n'a pas juste eu accès à la grâce, elle a pris ce que Dieu lui donnait, cette guérison. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai sauvée. Et c'est vrai qu'on est souvent en contact de la parole de Dieu. La grâce, elle nous est offerte. Le sacrifice de Jésus, il est encore efficace aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce que je vais le saisir par la foi? Parce que si vous saisissez par la foi l'œuvre de Jésus sur la croix, alors comme Jésus l'a dit, il y a une force qui vient dans notre vie et que si on croit, on voit la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie. Donc Jésus est mort sur la croix. Jésus a donné sa vie sur la croix. La grâce est offerte à tous. Mais maintenant, c'est à nous de saisir cette grâce par la foi et de l'appliquer à notre vie. Et si ce soir, vous croyez, vous saisissez par la foi que Jésus-Christ est mort pour vous, pour vos péchés, que la colère qui vous revenait est tombée sur lui, alors vous serez sauvé, parce que vous croyez et vous saisissez ce que Dieu veut vous donner. Ensuite, il y a Jaïrus. Et justement, à propos de cette foi, Jaïrus, il va nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la foi. Alors pour Jaïrus, lui, c'était différent. La souffrance, elle était différente. Et il était dans une situation, je pense, qui est une des plus difficiles. Il perdait sa fille. Je pense que de toutes les souffrances sur la terre, l'une des plus dures, ça doit être celle-là. C'est quand ses enfants sont en train de mourir. Et là, c'était difficile, parce que vous savez, souffrir soi, bon, c'est une chose, on souffre, voilà. Mais quand c'est ceux qui nous sont proches qui souffrent et qu'on peut rien y faire, c'est différent. Et on voit au travers de ce texte et dans d'autres textes dans la Bible que Jaïrus, il s'est approché du Seigneur, mais c'était pas pour lui. Enfin, si, c'était pour lui, mais c'était surtout pour sa fille. Et on voit que Jésus répond aussi à la foi de ceux qui s'approchent pour leurs proches. Par exemple, il y a Jaïrus avec sa fille. On voit un centenier romain qui vient pour son serviteur. Et plusieurs fois dans la Bible, on voit que des personnes se sont approchées, non pas pour leurs souffrances à eux, mais pour les souffrances de ceux qui leur étaient proches. Et on voit que Jésus a répondu à la foi de cet homme. Jésus lui a dit, Jaïrus a dit, voilà, il y a cette situation, il le supplia de venir, de l'accompagner, de venir chez lui. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus, il a accepté. C'est écrit, Jésus dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Donc Jaïrus avait son problème, avait sa fille qui souffrait, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Jésus-Christ, et quand on va à Jésus-Christ, Jésus nous accompagne et vient avec nous. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Eh bien, on voit cette femme qui vient, et Jésus s'occupe de cette femme. Donc Jaïrus demande à Jésus de l'accompagner, et en plus il voit Jésus opérer un miracle pendant qu'il vient avec lui, la foi de Jaïrus. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Jaïrus demande à Jésus de venir, de l'accompagner dans sa vie, de s'occuper de ses proches, et qu'est-ce qui se passe? La fille, elle meurt. Et vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, il y a des fois où, on est allé vers Jésus. Jésus fait route avec nous. Jésus est avec nous. Et pourtant, les choses ne se passent pas comme on voudrait ou comme on avait espéré qu'elles se passent. Et comme Jaïrus, on peut voir Dieu agir dans la vie des gens facilement, mais dans notre propre vie, il semblerait que Dieu n'ait pas agi et qu'il y ait cette mort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça? Seigneur, tu fais ça pour lui, tu fais ça pour lui, tu manifestes ta grâce pour lui, lui il a vu tel miracle, et moi? Et là, il semblerait que la situation, c'est fini, c'est trop tard. Et c'est à ce moment-là que la foi de Jaïrus a été éprouvée. Et alors que tout était opposé et que tout était fini, et je pense qu'il y a dû avoir une douleur dans le cœur de Jaïrus de fou, il y a eu une chose, une parole de Dieu. Jésus va dire à Jaïrus, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » La Bible nous dit, justement en parlant de la foi, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez vu l'opposition entre ce que l'on voit et ce que l'on croit. Et vous savez, souvent nous on aime voir pour croire. Mais la Bible elle dit, si tu crois, tu verras. Et la nature de la foi, quand est-ce qu'elle se manifeste? Elle se manifeste généralement quand tout est fini. Et c'est là que la vraie foi, elle jaillit dans le cœur d'un homme. Il y a une image qui dit que c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles. Quand il fait jour, on les voit pas. Mais c'est que quand il fait noir que l'on peut voir les étoiles. De la même manière, c'est quand tout est désespéré. C'est quand tout est sombre que la vraie foi, elle peut se manifester. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur ce que l'on voit, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et vous savez, le monde y passera, la terre passera, nos vies passeront. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et il y a des moments où pour le chrétien, la foi, elle est éprouvé. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de visible. On ressent les choses, c'est complètement à l'opposé de ce qui serait censé se passer. On peut avoir des impressions qui sont complètement à l'opposé. En fait, tout est mort, mais il y a une chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit qu'il a des projets de paix et un avenir fait d'espérance pour votre vie, ce n'est pas parce que tout s'écroule que ça veut dire que tout s'écroule. Parce qu'il y a quelque chose de plus puissant que ce que l'on peut voir, c'est la parole de Dieu. Si la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, ça veut dire que quoi que je ressente le matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Si la Bible dit que c'est Jésus qui a remporté la victoire sur la croix, si dans ma vie je peux ressentir ou même voir des choses qui me feraient penser que c'est le contraire, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui est la vérité, c'est ce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Et la vraie foi ne s'appuie pas sur les choses visibles, elle s'appuie sur ce que dit la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on voit que la foi de Jaïrus a été éprouvée, mais il est resté avec Jésus. Et on voit au verset 49 qu'il y a eu l'opposition. Ils lui diront, ils manquent de tact ceux qui lui ont dit ça, mais n'importune pas le maître. Vous avez vu? Il y a sa fille qui est morte et les gens lui disent, laisse tomber. Non. Il a écouté ce que Jésus a dit. Et même plus loin, on voit qu'à la fin, il y a même des personnes qui se sont moquées quand Jésus a dit, cette fille, elle dort. Parce que Jésus, il voyait bien plus loin que ce que tout le monde voyait. Et au final, Jaïrus a gardé la foi. La Bible dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. La Bible dit aussi que ce que les mains de Jésus ont commencé, ses mains l'achèveront. Et au final, la seule différence, c'est est-ce que on va lui faire confiance, oui ou non. Et pour nous chrétiens, on peut voir que parce que dans ce moment d'épreuve, de l'épreuve de la foi de Jaïrus, Jaïrus, dans ce moment-là, a mis sa confiance en Dieu, alors il a vu la gloire de Dieu. Et il ne faut pas se baser sur ce que l'on peut comprendre des choses, mais il faut nous baser sur ce que Dieu a dit. Et vous savez, les logiques du royaume, c'est pas toujours la même logique que nous on pense. Vous savez, nous, il y a des choses qui, pour nous, sont symboles de défaite. Par exemple, quand on est dans le désert, quand il y a la mort, le tombeau. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? On l'a chanté tout à l'heure, dans le désert, c'est le chemin du Seigneur qui se prépare. Dans le tombeau, on pourrait dire, tout est mort. Mais le tombeau, c'est le lieu de la résurrection. C'est le lieu du nouveau départ. C'est le lieu d'une nouvelle vie. Et nous, on peut se dire, non, c'est la mort. Non, c'est la vie. On peut voir Jacob qui a lutté contre l'Éternel, qui est par terre, qui est complètement cuit, qui est mort. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il a eu un nouveau nom, une nouvelle identité. Et on pourrait dire, il est mort, ouais, mais c'est quelqu'un de nouveau qui est un peu ressuscité, on pourrait dire. En sorte qu'après, il y a eu des circonstances difficiles, toujours dans la vie de Jacob. Mais lui, il était différent. Et c'est ça qui a tout changé. On peut voir dans la Bible une vallée d'ossements desséchés. C'est Israël qui dit, mais notre espérance est détruite. Et des ossements desséchés, il y a une grande armée qui naît. Parce que il y a une parole de l'Éternel. On peut voir dans l'histoire d'Israël qu'ils ont été complètement détruits. Parce qu'ils ont fait le mal. Et d'un tout petit reste, d'une poignée de personnes, Dieu a fait une grande nation. On peut voir dans la Bible un homme complètement usé, Abraham. Et de cet homme complètement usé, et qui était au final mort, qui ne pouvait pas produire la vie, une multitude de nations sont nées, plus ceux qui ont la foi d'Abraham, dont on fait partie. Donc c'est vraiment une très très grosse multitude. Et au final, la mort de Jésus, c'est ce qui nous a amené à la vie. Et la seule différence, toutes ces choses dont j'ai parlé, ce qui fait la différence, c'est la foi. Quelle que soit la situation par laquelle vous passez, quelles que soient les choses que vous voyez, il y a une chose qui compte. C'est ce que Dieu dit. Si Dieu a dit quelque chose, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sauf que notre foi, elle est éprouvée, et c'est Pierre qui dira que cette foi, elle est précieuse comme l'or qui doit être éprouvée. Alors on va aller le lire. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et au verset 6. On va lire au partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Jaïrus voulait une guérison. Jaïrus a eu une résurrection parce qu'il a fait confiance à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole et merci, c'est vrai, parce que nous pouvons pleinement nous confier en elle, Seigneur, et nous savons que c'est ta parole qui est la vérité et qui fait du bien à nos cœurs, Seigneur. Tu vois tout ce que nous sommes, Seigneur, et tu vois, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont comme cette femme qui perdait son sang, Seigneur, s'il y a des personnes qui sont dans le péché et qui perdent leur vie et tout se détruit dans leur vie, mais à cause du péché, Seigneur. Alors, je te prie afin que tu puisses révéler la croix, que tu puisses montrer à quel point le péché est une offense envers toi, Seigneur, mais aussi à quel point tu es celui qui pardonne le pécheur qui se repent et qui se confie en toi, Seigneur. Que vraiment cette œuvre de la croix soit révélée et agissante dans les cœurs, Seigneur. Et puis tu vois aussi ceux qui souffrent à cause parce qu'ils sont chrétiens, parce que leur foi est éprouvée, Seigneur. C'est vrai, nous voulons, comme Abraham, Seigneur, donner gloire à Dieu et être fortifiés par la foi, Seigneur, en te donnant gloire. Merci, parce que tout ce que tu permets, tu le fais concourir à notre bien, Seigneur, alors que ce soir encore, la foi soit fortifiée, Seigneur, et que, au travers de toutes ces choses, ce que nous désirons, c'est que ton nom à toi soit glorifié, Seigneur. Amen.